Chapitre 6. En arrivant à Paris, on ne sait pourquoi, au lieu de descendre chez elle, les catastrophes dans leur mystère, au lieu de descendre chez elle, Gabrielle descendit chez Sébastien Zamé, dont la maison était sous la Bastille, juste où est aujourd'hui la rue de la Cerisaie. La Cerisaie, le verger de nos anciens rois, formait alors une partie du jardin de Zamé. En racontant la vie privée du roi, comment n'avons-nous point encore parlé de ce riche partisan? Nous-mêmes n'y comprenons rien. Sébastien Zamé, père d'un maréchal de camp des armées du roi et d'un évêque de Langres, avait été cordonnier sous Henri III. Il était le seul qui fut parvenu à chausser convenablement le délicieux pied de Sa Majesté. Il était natif de Luc. Son caractère jovial, ses plaisanteries florentines lui donnèrent entrée près de Henri IV. C'était ce que l'on appelait à cette époque à Paris un partisan, ce que l'on appelait à Jérusalem un pharisien, ce que l'on appelle aujourd'hui dans tous les pays du monde un usurier. Au contrat de mariage d'une de ses filles, comme le notaire, embarrassé, demandait quelle qualité il voulait prendre dans l'acte, « Mettez, » dit Zamé, « Seigneur de 1 700 000 écus. » Le roi l'aimait, nous l'avons dit, et allait souvent souper chez lui, avec ses amis et ses maîtresses. Il l'appelait Bastien tout court. Gabrielle, au lieu de descendre en son hôtel, où elle n'était sans doute pas attendue, descendit donc chez Sébastien Zamé. Sully raconte lui-même qu'il alla l'y voir et qu'elle fut fort tendre pour lui. Alors il lui envoya sa femme. Cela gâta tout. Gabrielle, croyant être aimable, dit à Madame de Sully qu'elle pouvait compter sur son amitié et qu'elle la recevrait toujours à ses levées et à ses couchers. Ces façons de reine mirent Madame de Sully hors des gonds. Elle rentra au château de Rosny furieuse, mais Sully la calma en lui disant « Soyez tranquille, mamie, les choses n'iront pas loin. » Zamé avait paru enchanté du grand honneur que lui faisait Gabrielle. Il fit préparer un dîner des plus délicats et soigna lui-même les mets qu'il savait que la duchesse aimait le mieux. Elle avait communié le matin, c'est-à-dire le jeudi de la semaine sainte. Grosse mangeuse et enchantée d'être quitte d'un devoir qu'elle n'accomplissait qu'à contre-cœur, Gabrielle, enceinte d'ailleurs, mangea beaucoup. L'après-midi, la duchesse alla aux ténèbres qui se devait dire à grande musique dans l'église du Petit Saint-Antoine. Elle marchait en litière avec un capitaine des gardes à côté de sa litière. On lui avait gardé une chapelle où elle entra pour n'être ni trop pressée ni trop en vue. Mademoiselle de Guise était avec elle et pendant l'office, la duchesse lui fit lire des lettres de Rome par lesquelles on l'assurait qu'elle verrait bientôt le divorce du roi avec la reine Marguerite et deux lettres que lui avait écrites le roi le même jour. Ces lettres étaient peut-être les plus vives et les plus passionnées que le roi eût jamais écrites à la duchesse de Beaufort. Il lui annonçait qu'il dépêcherait incessamment le sieur de Fresnes à Rome avec de nouveaux ordres. Après les ténèbres, et en sortant de l'église, elle s'appuya sur le bras de Madame de Guise en lui disant « Je ne sais ce que j'ai, mais je me trouve mal. » Puis, arrivée à la porte et en montant dans sa litière, « Venez m'entretenir, je vous prie, dans la soirée, » dit-elle. Et elle se fit reconduire chez Zamé, et là, se trouvant un peu mieux, elle essaya de faire une promenade dans les jardins. Mais au milieu de sa promenade, une seconde crise la prit. Alors, comme si tout à coup un éclair passait dans son esprit, elle jeta de grands cris, demandant qu'on la tirât de chez Zamé et qu'on la conduisît chez sa tante, Madame de Sourdis, au cloître Saint-Germain. Ce qu'on fut obligé de faire, dit la varenne à Sully, à cause de la passion extrême qu'elle témoignait avoir à déloger de la maison du sieur Zamé. Aussitôt arrivée chez Madame de Sourdis, la duchesse se fit déshabiller. Elle se plaignait d'un grand mal de tête. Madame de Sourdis n'y était pas, elle se trouva seule avec la varenne. Il lui portait toutes sortes de soins, mais n'envoyait pas chercher le médecin. On n'en envoya chercher un que quand les crises devinrent fréquentes et terribles. Pendant qu'on déshabillait la malade, elle fut prise d'une effroyable convulsion. Une fois revenue, elle demanda une plume et de l'encre pour écrire au roi, mais une autre convulsion l'en empêcha. Revenue de cette seconde convulsion, elle prit une lettre du roi qui arrivait à l'instant même. C'était la troisième qu'elle recevait depuis la veille. Elle voulut la lire, mais elle tomba dans une troisième convulsion qui alla toujours augmentant. Le médecin arriva, mais le médecin dit qu'il ne pouvait rien ordonner à une femme enceinte, qu'il fallait laisser agir la nature. Le vendredi, elle fit une fausse couche. L'enfant avait 4 mois. Le médecin n'en fit pas davantage. C'était cependant Larivière, le médecin du roi. Le soir du vendredi, elle perdit connaissance. Vers 11 heures, elle expira. Le médecin l'avait littéralement regardée mourir. Ainsi s'accomplirent les 4 prédictions qui disaient : la première, qu'elle ne serait jamais mariée qu'une fois. La seconde, qu'elle mourrait jeune. La troisième, qu'un enfant lui ferait perdre connaissance. La quatrième, qu'une personne à laquelle elle donnait toute sa confiance lui jouerait un mauvais tour. Après sa mort, dit Mézeray, elle parut si hideuse et le visage si défiguré qu'on ne pouvait la regarder qu'avec horreur. Ses ennemis, ajoute-t-il, prirent de là occasion de faire accroire au peuple que c'était le diable qui l'avait mise en cet état, parce que, disaient toujours ses mêmes ennemis, elle s'était donnée à lui afin de posséder seule les bonnes grâces du roi et qu'il lui avait rompu le col. Le diable, bien entendu. Ce qui avait donné lieu à ce conte, c'est que ce même Larivière, qui s'était contenté de la regarder mourir, eut l'impudence de dire en sortant « Hic est manus domini ». Au reste, quelque chose de pareil se raconta vers le même temps sur Louise de Bude, seconde femme de Henri de Montmorency. Quant à celle-ci, voici ce qu'en dit Sully dans ses mémoires. Elle était, dit-on, en compagnie, lorsqu'on lui annonça qu'un gentilhomme d'assez bonne mine, mais de teint et de poils noirs, était là qui demandait à lui parler sur des choses de conséquence. Elle parut interdite, éperdue, et lui fit dire de revenir une autre fois. Il répondit alors que, si elle ne venait pas, il irait la chercher. Il lui fallut quitter la compagnie. En s'en séparant, elle dit adieu, les larmes aux yeux, à 3 dames de ses amies, comme si elle allait à une mort certaine. En effet, elle mourut quelques jours après, ayant le visage et le col tournés sens devant derrière. Voilà le conte qu'on tient, ajoute Sully, des 3 dames à qui Madame de Montmorency dit adieu. Revenons à Henri IV. Il était à Fontainebleau, comme nous avons dit. Aux premières nouvelles, il en partit à cheval et ventre à terre. À Villejuif, il rencontra un courrier qui venait lui annoncer la mort de la duchesse. Dornano, Roquelaure et Frontenac, qui l'accompagnaient, le tirèrent en arrière et finirent par le ramener à l'abbaye de Saussay, au-dessus de Villejuif, où il se jeta sur un lit, en donnant des marques de la plus vive douleur. Quelques heures après, il vint de Paris un carrosse dans lequel il monta. Puis, dans ce carrosse, il revint à Fontainebleau, où les principaux seigneurs accoururent. Mais, en arrivant, étant entré dans la grande salle du château, « Messieurs, dit-il, je prie la compagnie de s'en retourner à Paris et de prier Dieu pour ma consolation. » Les gentilshommes saluèrent et se retirèrent. Le roi ne garda près de lui que Bellegarde, le comte de Lude, Termes, Castelnau, De Chalos, Monglas et Frontenac. Et comme Bassompierre, qui avait conduit par eau de Fontainebleau à Paris la duchesse de Beaufort, se retirait avec les autres, le roi le retenant, « Bassompierre, lui dit-il, vous avez aidé le dernier auprès de ma maîtresse. Demeurez aussi près de moi pour m'en entretenir. » « De sorte, dit Bassompierre, que je demeurai ainsi, et nous fûmes 5 ou 6 jours sans que la compagnie se grossît, sinon de quelques ambassadeurs qui venaient se consoler avec lui et s'en retournaient aussitôt. » Pendant ces 8 jours, Henri IV ne retint plus près de lui que Bussy, Zamé et le duc de Retz. Ce dernier, après avoir laissé le roi exhaler quelques plaintes, lui dit presque en riant Ah, par ma foi, sire, au bout du compte, cette mort me paraît un coup du ciel.
Un coup du ciel, et pourquoi ? Demanda Henri IV.
Mais songez donc à l'énormité que vous alliez faire, sire.
Quelle énormité ?
D'épouser cette femme, de faire de Mademoiselle d'Étrée une reine de France. Oh, pour la seconde fois, je jure Dieu que la Providence vous a fait là une belle grâce.
Le roi laissa tomber sa tête sur sa poitrine et rêva quelque temps. Puis, relevant la tête, « Peut-être, au bout du compte, avez-vous raison, duc, lui dit-il. Soit grâce, soit épreuve, je crois qu'à tout hasard, je dois remercier Dieu. » Et il remercia Dieu et se consola si bien, dit l'auteur des Amours du grand Alexandre, que 3 semaines après, il devint amoureux de Mademoiselle d'Entragues. Ce qui n'empêcha point que le roi ne portât le deuil 3 mois et en noir contre l'habitude. Les rois portent le deuil en violet. Quant à la pauvre Gabrielle, on n'apprit rien de plus sur sa mort. Seulement, le bruit subsista qu'elle avait été empoisonnée. La joie fut grande à Rosny. Gabrielle mourut le samedi au matin, mais dès le vendredi soir, la Varenne avait envoyé un messager à Rosny. De sorte qu'à l'heure même où Gabrielle mourait, Sully embrassa sa femme qui était au lit et lui dit « Ma fille, vous n'irez point au lever de la duchesse, la corde a rompu. » Quant à Zamé et à la Varenne, ils restèrent tous deux fort en faveur. Zamé appelant sa caisse le Mont-de-Piété des Rois et la Varenne fondant l'église de la Flèche.